Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un plan très ambitieux.
Le plan d'Emmanuel Macron pour relancer le nucléaire en France, une renaissance selon le chef de l'État. Ce seront finalement 6 nouveaux réacteurs qu'il souhaite voir construire d'ici 2050. Un plan qui s'accompagne aussi d'une stratégie forte sur les énergies renouvelables avec le doublement de la production d'électricité verte d'ici 2030. Des annonces faites cet après-midi à Belfort à 2 mois de la présidentielle. Nous entendrons le président. Décryptage ensuite du service économie, suivi de la réaction des représentants de la filière des énergies renouvelables. Dossier complet à suivre. À suivre aussi la mort du professeur Luc Montagnier, ancien prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le sida, devenu une figure des antivax ces dernières années. La montée des eaux qui inquiète les villes côtières. Plusieurs d'entre elles signent une déclaration d'engagement. Et pour finir, voulez-vous danser avec Angelin Prège-Locage ? C'est possible. Rendez-vous en fin de journal pour tout savoir.
À 18h15, un jour dans le monde, les poches pleines de monnaie virtuelle. Ce soir, c'est pas la première fois qu'on parle de crypto-monnaie dans Un jour dans le monde, mais vous avez peut-être remarqué que certains pays en font leur monnaie presque de référence pour échapper à la crise, voire une monnaie refuge. C'est le cas en Amérique du Sud, c'est le cas au Liban. On verra s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter avec notre invité. Puis à 19h20, le téléphone sonne. Nous sommes au fond de l'océan puisque tous les invités du téléphone sonne sont à Brest au One Ocean Summit. Et la question qu'on pose, c'est faut-il sanctuariser les océans? On le fait déjà en partie. Faut-il en faire plus? Interdire toute pêche dans certaines zones? Interdire tout forage, particulièrement en haute mer? C'est vraiment le sujet du moment et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un plan très ambitieux pour les 30 ans à venir.
Relancer le nucléaire civil tout en misant fortement sur les énergies renouvelables. Emmanuel Macron a donc détaillé cet après-midi sa stratégie énergétique jusqu'en 2050. Un plan qui, rappelons-le, est totalement suspendu à la prochaine présidentielle et à son éventuelle réélection. Un plan politique donc, mais néanmoins très attendu, notamment sur le nucléaire. Le chef de l'État a chiffré précisément le nombre de nouvelles centrales qu'il souhaiterait voir construire d'ici les 30 prochaines années. Ces derniers temps, des chiffres de 6 à 14 EPR circulaient. Ce sera finalement 6, avec une option possible de 8 supplémentaires. C'est toute une filière qui reprend. On écoute le chef de l'État.
C'est la renaissance du nucléaire français. Sur la base des travaux de RTE et de l'Agence internationale de l'énergie, j'ai pris 2 décisions fortes. La première est de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être. Je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques, sauf évidemment si des raisons de sûreté s'imposaient. La seconde décision est que compte tenu des besoins en électricité, de la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant, qui ne pourra être prolongée indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
Voilà, bonsoir Delphine Simon. On va décrypter avec vous les annonces du président sur le nucléaire, mais aussi sur le reste de sa stratégie. Le chef de l'État souhaite donc voir construire 6 nouveaux EPR de nouvelle génération supplémentaires, au minimum une accélération historique pour tout le secteur.
Oui, c'est un tournant nucléaire après une décennie de glaciation, après la catastrophe de Fukushima. 6 EPR2 seront donc construits d'ici 2035, ainsi le souhaite le chef de l'État. Ce sont des versions optimisées du réacteur de Flamanville qui accumule les retards et les dépassements de factures. Mais au vu des études externes, la filière est prête, affirme le chef de l'État. Sauf problème de sûreté, plus aucun réacteur ne doit fermer, dit-il. Et la durée de vie de toutes les centrales doit être prolongée au-delà de 50 ans. Une volte-face alors que la loi énergie-climat votée il y a 2 ans à peine prévoit de baisser la part du nucléaire installé de 70 à 50% en 2035. En complément, l'État va investir dans la recherche sur les futurs petits réacteurs modulables, les SMR. Quant au coût de cette relance nucléaire, elle est estimée à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'argent public.
Voilà pour l'aspect nucléaire. Delphine, le chef de l'État a aussi chiffré ses ambitions en matière d'énergie renouvelable.
Oui, car construire des réacteurs nucléaires, cela prend au minimum 10 à 15 ans. Le chef de l'État veut donc aussi aussi accéléré sur les renouvelables. Il annonce un effort ambitieux pour développer l'énergie solaire. La capacité installée sera multipliée par 10 d'ici 30 ans. Accélération aussi de l'éolien en mer, alors que le premier parc éolien va émerger cette année au large de Saint-Nazaire. Le chef de l'État en veut une cinquantaine en 2050. Coup de frein en revanche sur les éoliennes terrestres. Vu les réticences, le chef de l'État repousse de 20 ans l'objectif qui a été fixé.
Delphine Simon, merci du service économie de France Inter. On le disait, donc le président français entend doubler la production d'électricité verte d'ici 2030. Qu'en pensent les entreprises qui déjà travaillent sur ces énergies renouvelables? L'ambition est-elle à la hauteur des enjeux? Écoutez la réponse de Jean-Louis Ball, il est président du syndicat des énergies renouvelables.
C'est un plan d'investissement massif dans les énergies renouvelables à l'horizon 2050. Pour le solaire photovoltaïque, c'est multiplié par 10. Pour l'éolien en mer, c'est installé 40 gigawatts, là où on en a aujourd'hui zéro. Donc c'est vraiment un programme très ambitieux. Maintenant, ce qui importe surtout, c'est de réaliser des objectifs à plus court terme pour se mettre sur la bonne trajectoire. Le président a souligné qu'en France, il fallait 5 ans pour développer un projet solaire, 7 ans pour développer un projet éolien terrestre. Il n'a pas parlé de l'éolien en mer, mais c'est de l'ordre de 10 ans. Donc ça, c'est tout à fait incompatible avec l'ambition. Il faut donc maintenant mettre les choses en pratique et accélérer l'instruction des projets et qu'il y ait un véritable pilotage par l'État du développement de ces projets ambitieux.
Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, il était avec Sandy Dauphin. Dossier complet sur cette question à retrouver, bien sûr, sur franceinter.fr.
Et on en vient, Sébastien, à la disparition du professeur Luc Montagnier.
Oui, l'information de sa mort circulait déjà sur les réseaux sociaux et dans certains médias sans que nous soyons en mesure de la confirmer. Il a fallu attendre cet après-midi la transmission de son certificat de décès par la mairie de Neuilly-sur-Seine pour pouvoir donner officiellement cette information. Luc Montagnier s'est donc éteint ce mardi à l'hôpital américain de Neuilly à l'âge de 89 ans. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
L'ancien prix Nobel de médecine, une sommité dans le monde médical, était devenu ces dernières années un personnage très controversé.
Oui, il faut rendre d'abord hommage à une carrière prestigieuse. L'entrée au CNRS en 1960, la direction de l'unité d'oncologie virale de l'Institut Pasteur dès 1972, le travail sur les virus et la découverte bien sûr du VIH en 1983. Dans le laboratoire qu'il dirige à l'époque, ce qui lui vaudra le prix Nobel de médecine en 2008 avec sa collaboratrice Françoise Barré-Sinoussi. Membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine, Luc Montagnier sera pourtant de plus en plus décrié dès la fin des années 2000 par la communauté médicale en France qui lui reproche des prises de position dépourvues de fondements scientifiques. En novembre 2017, par exemple, lors d'une conférence de presse mémorable, il défend des arguments anti-vaccins aux côtés d'Henri Jouyeux. Il déclare par exemple que le vaccin provoque la mort subite du nourrisson, condamnation quasi unanime de la profession. Rebelote durant la crise du Covid, Luc Montagnier affirme pêle-mêle que la vaccination crée les variants, que le SARS-CoV-2 aurait été manipulé en laboratoire et fabriqué à partir du virus du sida. Des thèses réfutées là encore, et ce n'est pas tout. On a carrément parlé de charlatanisme quand il a assuré que des antibiotiques pouvaient traiter l'autisme ou encore qu'on pouvait soigner le pape Jean-Paul II de la maladie de Parkinson avec des gélules à base de papaye fermentée.
Véronique Julia, spécialiste médecine. Au Canada, la colère des camionneurs ne retombe pas malgré les coups de menton du Premier ministre Justin Trudeau. Les autoproclamés convois de la liberté opposés aux restrictions sanitaires bloquent désormais un nouvel axe routier entre le Canada et les États-Unis, le port d'entrée d'Emerson qui relie le Manitoba au Dakota du Nord. Quand les villes côtières craignent d'être grignotées par la mer, la hausse du niveau des océans était aujourd'hui au menu du One Ocean Summit à Brest. Un sommet sur l'avenir des océans face au réchauffement climatique notamment, qui se termine demain. Cette montée des eaux est inéluctable. Plusieurs villes risquent d'être fortement impactées comme Houston, Lisbonne, Stockholm, Jakarta, Abidjan ou Plymouth. Des villes qui ont donc signé aujourd'hui une déclaration officielle dans laquelle elles s'engagent à anticiper cette montée et à s'adapter. Reportage à Brest de Célia Quiré.
Le maire de Saint-Louis au Sénégal, Mansour Faye, est venu à Brest pour en témoigner. Sa ville a déjà les pieds dans l'eau.
Elle monte aussi rapidement puisqu'elle est juste au bas des maisons. Donc naturellement, il faut que des mesures soient prises d'atténuation et d'adaptation pour quand même essayer donc de lutter contre ce phénomène. Les populations seront déplacées de la langue de Barbarie vers l'intérieur du continent. La mer démolit des maisons, naturellement, il risque d'avoir donc des victimes.
Et un barrage ne suffira pas pour protéger la côte. Cette commune doit préserver sa façade maritime, restaurer des écosystèmes qui épongent et atténuent la montée de l'eau. Il y a différentes solutions possibles, insiste Théophile Bongartz de la plateforme Océan et Climat.
Il y a énormément de villes qui sont concernées par le problème, mais la question de l'anticipation est la bonne. C'est qu'aujourd'hui, souvent, on agit en réaction après un choc, après une tornade, par manque d'anticipation. Concrètement, par exemple, on voit qu'à Miami, avant même d'avoir les pieds dans l'eau, on aura de l'eau au robinet qui sera salée. Dans d'autres régions, c'est des vagues de submersion puissantes qui peuvent, en une nuit, engloutir quelques centaines de mètres de plage.
Or, aujourd'hui, les populations les plus exposées sont les plus pauvres. Cette déclaration insiste également sur le besoin de financement de certaines communes. En 2100, 1 milliard de personnes vivront sur ces littoraux, le niveau de la mer pourrait s'élever de plus d'un mètre.
Le reportage à Brest de Célia Kiré, la ville de Brest où l'école des mousses de la marine nationale est sous le choc après la découverte ce matin du corps sans vie d'un élève de 16 ans dans son lit. Une enquête de gendarmerie a été ouverte sur les causes de cette mort encore inconnue à ce stade.
Retour aux assises de l'Isère à Grenoble au 9e jour du procès de Nordal Le Landem.
L'ancien maître chien accusé du meurtre de la petite Maëlys en 2017. Aujourd'hui, ce sont les experts qui examinent le corps et les vêtements de la fillette. Il témoigne devant la cour. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Des experts qui n'ont pas pu répondre à toutes les questions sur les circonstances de sa mort.
Oui, parce que le corps de la fillette n'a été retrouvé que 6 mois après sa disparition dans la forêt suite aux aveux de Le Landais. Ce sont donc sur des ossements que les experts ont travaillé. Sur le crâne de Maëlys, ils constatent une fracture du nez, 2 fractures de la mâchoire. Elles correspondent aux coups décrits par l'accusé. Dans la salle d'audience, la cour projette les images glaçantes de la reconstitution. On y voit Nordal Le Landais au volant de sa voiture qui frappe au visage le mannequin représentant la fillette sur le siège passager. Des coups répétés, des coups d'une extrême intensité, précise le médecin légiste. Y a-t-il eu d'autres violences d'ordre sexuel ? Impossible de répondre. Les os ne peuvent pas porter de traces d'une agression sexuelle, explique un autre expert. Les analyses de la robe de Maëlys ne permettent pas non plus d'en dire plus, mais il y a des éléments troublants, des traces de lacération sur la jupe et 2 mèches de cheveux coupées. Vous avez une explication ? Demande la présidente à l'accusé. Pas du tout, répond Nordal Le Landais.
Mathilde Vinceneux en direct des Assises de l'Isère avec Georges Thau. Le parc Vulcania en Auvergne, touché par un grave incendie aujourd'hui. Le nouveau planétarium du parc à thème près de Clermont-Ferrand a pris feu ce matin, en grande partie détruit. Il n'y a fort heureusement aucun blessé.
Et on termine avec un petit pas de danse, mais pas comme les autres.
Quand un pays préside le Conseil de l'Union Européenne, Fabienne, il est de coutume, de tradition qu'il laisse pour la postérité, une œuvre d'art. C'est généralement un tableau, une œuvre plastique ou une statue. Eh bien, la France, elle a choisi de léguer une chorégraphie accessible à tous les habitants de l'Union européenne via une application sur les smartphones qui s'appelle Danse l'Europe. Stéphane Capron.
Nous allons échanger nos énergies, nos vibrations. Je vais te guider tout au long de cette expérience.
Cette voix douce, c'est celle d'Angelin Preljocage qui a imaginé cette chorégraphie participative, un projet piloté par Dominique Hervieux, la directrice de la Maison de la Danse de Lyon.
Plutôt que d'avoir une œuvre que seulement les députés européens verront, c'est l'idée de la démocratie en fait, et d'une forme de générosité, et de dire comment l'art peut rentrer encore plus dans la vie de chacun.
Commence une marche sur place en faisant rouler les hanches.
Sur une musique composée par Jeanne Haddad, Angelin Preljocage décrit avec des mots simples sa chorégraphie.
Au fur et à mesure du processus, j'ai compris qu'il fallait que j'invente quelque chose qui soit à la portée de tous les corps, que ce soit des corps âgés, que ce soit des corps jeunes, pleins d'énergie, des corps plus lent, voilà. Et donc, ce qu'il fallait, c'est trouver un univers qui parle à tout le monde.
Les premiers à avoir testé cette chorégraphie sont les élèves de la section danse hip-hop du lycée Turgot de Paris, dont fait partie Jade.
Même si, voilà, on n'est pas à côté de la personne, on n'est pas tout proche, ben, on a des moyens de communication, de lien. Ça prouve que, voilà, l'art, c'est une force et que, ben, on peut, même sur des sujets politiques, l'utiliser pour représenter la manière dont les pays sont unis et qu'ils ont une certaine connexion.
Et l'application est disponible dans les 24 langues de l'Union européenne.
Voilà, et chacun peut se filmer et déposer sa propre vidéo sur la plateforme numéridance.tv. TV.
Eh bien, allons-y, Sébastien. Mais après Un jour dans le monde, quand même, où vous reviendrez? Vous nous parlerez du Liechtenstein, un petit état pour l'homme et une grande ambition pour l'espace. Ce soir, on va parler crypto-monnaie, le bitcoin et ses amis. Essayez de voir si cet argent virtuel est en train de devenir un remède à l'hyperinflation. S'il faut qu'on s'en inquiète ou si au contraire, c'est une bonne nouvelle. Et puis, à 19h20, c'est le téléphone sonne dans les océans ce soir avec le One Ocean Summit de Brest. Et cette question, faut-il préserver ou sanctuariser l'océan? Ça existe déjà, évidemment, de sanctuariser certaines zones. Faut-il les étendre? Et qu'est-ce qu'on fait surtout des forages? Pour l'instant, ils sont interdits. On ne fait qu'explorer pour l'instant les abysses, mais on sait ce qu'ils contiennent. Ils contiennent des minerais dont on va avoir besoin. Alors c'est non? Est-ce qu'il faut réfléchir? Mieux réglementer les forages en haute mer? Vos questions, c'est maintenant au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Élodie Calac, bonsoir. Des pluies sur le nord ce soir.
Oui, bonsoir à tous. Les pluies arrivent sur la région parisienne, sur les Ardennes également, et puis elles vont progresser vers le sud cette nuit. On aura une petite couche de neige en montagne. Demain, il restera quelques pluies entre les Pyrénées, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura le matin. Toujours un petit peu de neige sur le relief. Ça s'éclaircira doucement l'après-midi, plus franchement d'ailleurs autour de la région lyonnaise. Autour de la Méditerranée, là, le vent se renforcera jusqu'à 70 km à l'heure. Le soleil devra composer avec les nuages du Roussillon aux Bouches-du-Rhône le matin et puis plutôt du côté des Alpes-Maritimes l'après-midi.
Et ce sera ensoleillé au nord quand même?
Oui, dès le matin, avec juste quelques brouillards par endroit, un petit peu plus de nuages en allant vers le nord-est. Il fera plus froid au nord en revanche, un retour dégelé, moins 3 à 2 degrés contre 2 à 7 sur les régions du sud. Et puis l'après-midi, souvent 6 à 10 degrés jusqu'à 12 près de l'océan et sur le sud-ouest. Et 14 à 18 en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.